Carlos.
Salut.
Écoute, je suis vraiment ravi de t'accueillir sur Stackcast en direct de la vallée, donc.
Oui, exactement, en direct de San Francisco. Il fait pas beau aujourd'hui, donc
il fait pas beau.
Mais bon, comme c'est un podcast, on s'en fiche.
Ouais. C'est en direct des bureaux de The Refiners, là?
Non, je suis chez moi.
Ah.
Non, c'est en direct de chez
moi. Écoute, ok. Il doit être 11h du mat, si j'ai bien compris.
C'est ça, exactement, il est 11h du mat.
Ok, bon, ici, il est 20h. Et je prie pour que ma fille hurle pas avant d'aller se coucher et me flingue l'interview, mais tout va bien aller.
Ok, d'accord.
Bah, l'idée sur cet épisode, c'est que tu vides ton stack. Donc, en gros, c'est les outils, les apps, les bouquins que tu lis, les newsletters auxquels tu es plugué, ce que tu veux. Tu le partages, je vais te guider dans cette interview. Et même si tu utilises que des choses très classiques, bah c'est intéressant aussi. Ça donne aussi pas mal d'informations. Stackcast aurait pu s'appeler le code. Pourquoi ? Parce que l'idée, c'est de donner des codes à ceux qui ne les ont pas. Et le bon moyen pour ça, c'est de demander aux gens ce qu'ils font, ce qu'ils utilisent, ce qu'ils consomment au quotidien en termes d'informations, en termes d'outils, de méthodologies. Ton parcours, ton histoire, elle m'intéresse, surtout sur la fin de ton parcours. Tu es à SF, tu t'occupes de propulser des entrepreneurs français là-bas, en tout cas sur le marché US. Et donc, du coup, s'il y a bien un type qui peut nous vider son stack, qui peut nous donner les codes pour aller entreprendre là-bas, c'est bien toi.
Ouais.
Donc en fait, tout commence à Limoges. Ça, à chaque fois, je me dis, c'est bien.
Voilà, cool, si on fait une rétrospective, ça va être un peu long parce que moi, je commence à être un gorille cendré, quoi. Tu vois, j'ai le dos qui devient gris, quoi. Donc moi, j'ai commencé en 96, effectivement, à Limoges de façon un peu improbable. Je n'étais pas du tout programmé pour devenir entrepreneur et encore moins dans la tech. J'ai fait des études de littérature. Je m'apprêtais à devenir prof et j'ai créé une start-up, on n'appelait même pas ça d'ailleurs une start-up, avec mon frère à l'époque en 96, qui est devenue une agence digitale qui aujourd'hui s'appelle Imakina et qui est cotée sur Euronext et que j'ai quitté une fois entré en bourse pour créer ensuite un éditeur de logiciels qui était le premier éditeur de logiciels en SaaS à l'époque en 2006 en France, qui s'appelle Blue Kiwi Software, qui faisait des réseaux sociaux d'entreprise. Vous connaissez certainement Slack d'autres trucs comme ça. On faisait ça en 2006 et timing is everything. Et là, on était un petit peu early. En tout cas, l'aventure a été exceptionnelle. On a levé pas mal d'argent en France. Autant la première startup, j'avais jamais levé d'argent. Et avec Blue Kiwi, on a levé de l'argent. Je te parle d'une époque qui est bien avant la French Tech.
Avant la crise.
C'était en 2006. En fait, en 2010, j'ai compris que ça se passait pas en France, que mon sujet. En fait, c'est un peu comme si j'avais ouvert un sex shop au Pakistan, quoi. Et donc j'ai décidé d'exporter le projet Blue Kiwi en mode cross-border. Et on a pas fermé en Europe ce qu'on faisait pour revenir aux US, mais on a ouvert un bureau aux US. On a essayé de plusieurs façons. D'abord en envoyant quelqu'un d'autre que moi et ça a pas fonctionné. Ensuite, en recrutant des Américains, ça n'a pas fonctionné. Donc, du coup, je me suis dit, il faut que j'y aille. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai déménagé à San Francisco en 2010 avec femme-enfant pour m'installer. Et donc, ça fait 10 ans maintenant, pardon, que je suis à San Francisco. Et Blue Kiwi, deux ans après, j'avais des investisseurs européens et notamment français à qui ça faisait très peur l'aventure américaine parce que ça coûtait beaucoup d'argent.
Ouais.
Et ça aussi, c'est pas les mêmes investisseurs en France et aux US. Et donc, finalement, on a décidé de vendre la boîte qu'on a vendue en 2012 à Atos.
T'as revendu ça à Atos.
Qui était une jolie vente, mais qui n'est pas non plus une vente à la hauteur de j'en sais rien moi, Yammer par exemple, qui s'est vendu à Microsoft un milliard, qui était un de nos concurrents quoi à l'époque, donc j'ai pas vendu un milliard, tu vois, loin de là. Et ensuite, j'avais pas vraiment envie de rentrer en France tout de suite en 2012. Ça faisait 2 ans que j'étais dans la vallée. J'avais pas encore compris les codes de la vallée et j'ai décidé de créer une start-up. C'est la seule chose que je sais faire ici à San Francisco, une start-up américaine avec des investisseurs américains, des collaborateurs américains qui étaient dans le domaine du mobile et on faisait une application qui s'appelait Quarter et qui permettait d'interagir avec le broadcast, avec la télévision. Et notamment pendant les matchs de sport américain. En fait, c'était un jeu quoi, pour faire de la prédiction pendant des matchs de basket, de football américain, etc. Et long story short, je me suis planté. Et je me suis planté essentiellement parce que pour plein de raisons, mais une des raisons, je pense, c'est que j'ai essayé d'être une meilleure version de moi-même en venant aux États-Unis en me disant bon ça y est maintenant t'es dans c'est les Jeux Olympiques, c'est la Champions League, donc ce que tu faisais en Europe faut que tu le fasses mieux. Et ben ça c'est un truc que j'ai appris à mes dépens et que je vois aussi sur certaines startups que j'accompagne. Quand t'as la mauvaise stratégie et que t'exécutes mieux, ben il se passe un truc assez intéressant, c'est que en fait tu meurs plus vite.
Voilà, en fait. Tu vas plus vite vers le mur,
Voilà, tu vas plus vite vers le mur. Donc, c'est ce qui m'est arrivé. Et en fait, j'ai compris, à travers cette expérience qui a duré, 3-4 ans, de 2012 à 2015, que, ben, il fallait pas essayer d'être meilleur que ce qu'on était, mais être différent, de faire le, voilà, et que j'étais dans un environnement qui était différent, dans une culture qui était différente. Donc, il fallait que, fasse un reboot. Bon, alors, j'avais pas vraiment d'idée de nouvelle start-up, mais en même temps, fort de cette expérience-là, de mon expérience, je suis partie de la première génération de Frenchies qui sont arrivés dans la vallée, pas pour ouvrir une boulangerie ou pour bosser pour Facebook ou Google, mais vraiment pour monter sa propre start-up. Je me suis dit, c'est pas con de créer un fonds d'investissement. Alors, c'est compliqué hein, de monter un fonds parce qu'il y en a beaucoup dans la vallée. J'ai créé un beta fund quoi, tu vois, avec comme un peu comme les startups. En fait, les fonds se créent un peu comme les startups. Au départ, tu fais un premier fonds avec family and friends, et c'est ce qu'on a fait.
Un lean fonds.
Voilà, lean c'est fond. Ça. Voilà, tu bootstrap, puis tu crées un micro fonds quoi, en fait, avec ton réseau propre. Et ce qu'on a fait avec deux autres partenaires, qui est Géraldine Nemer et Pierre Gobin. Et on a créé un petit fonds de 7 millions avec notre argent et ceux d'amis fortunés. Et on, avec une thèse très particulière qui consiste à n'investir que dans ce qu'on appelle des immigrant founders, c'est-à-dire que des gens qui ne sont pas de la Silicon Valley et qui pourtant ont un play global et qui ont un projet à échelle internationale. Et qui ont rencontré les mêmes difficultés que nous, qui est une difficulté d'acculturation d'abord, ensuite une difficulté à créer du réseau sur place, parce qu'on ne connaît personne par définition sur place, et qui avait aussi besoin un peu d'argent. Donc on essaye d'apporter ces trois choses-là, c'est-à-dire de t'acculturer, de te faire comprendre plus vite que moi ça m'a pris.
Les shortcuts.
Exactement. Pour savoir comment la Silicon Valley fonctionne, t'apporter le playbook et le Google Translate aussi. un Google Translate et t'apporter du réseau. On a accès à qui on veut quoi, en fait, dans la Silicon Valley, par soit directement ou indirectement, et puis te donner un peu d'argent pour bien évidemment que ça marche. Depuis 3 ans on a investi dans 55 startups, donc on a un joli portefeuille et avec des pépites, enfin en tout cas j'espère pas toutes hein, mais on a quelques startups super intéressantes. Voilà ce que je fais. Et là mon actualité c'est que on a fini de déployer le premier fonds et on est en train de lever un deuxième fonds qui sera un peu plus gros, sur un modèle, sur la thèse restera exactement la même. On veut investir toujours dans des immigrant founders, essentiellement qui viennent d'Europe. Mais pas simplement en France, hein. Tu sais, dans le premier fonds, on avait 17 nationalités, hein, donc ça vient un peu de partout. Beaucoup de Français, bien évidemment, parce qu'on a notre réseau là-bas. Et avec peut-être un modèle de fonctionnement qui va être différent que du premier, qui était un peu basé un peu sur un modèle d'accélérateur auquel je crois pas vraiment. Voilà.
Ouais, c'est la question que je vais te poser, c'est que finalement, tu te définis, enfin, The Refiner, tu le définis comme un fonds plutôt qu'un accélérateur, c'est ça?
Oui, je pense que le premier modèle de The Refiner, c'était un fonds, puisqu'on investissait de l'argent, il comprenait du capital, mais on avait un modèle de fonctionnement du type accélérateur avec des batchs, 2 fois par an, 3 mois, et on fait un chèque d'environ 100 000 dollars.
Ouais, contre de l'equity, et puis ouais.
Contre 5-7% d'equity. Tu vois, le deuxième modèle va être un modèle où il n'y aura pas de badge, ça sera très personnalisé, on va aller sourcer des startups, on va travailler d'abord avec elles sur le sol européen, sera basé en Europe, ouais. On les amènera à San Francisco, mais de façon, pas de sous forme de badge, de façon complètement personnalisée, et on va les financer sur une période beaucoup plus longue que 3 mois, parce que ce qu'on a appris aussi, c'est qu'on avait besoin de beaucoup plus que 3 mois pour réussir. Et que les startups ont besoin donc de plus d'argent aussi, puisqu'on décorera entre 200 et 500 000 dollars sur 9 à 12 mois, pour les mettre dans une situation de lever de l'argent avec des investisseurs américains, ou des investisseurs européens éclairés, en tout cas avec qui on aime bien travailler.
J'ai interviewé 2-3 fonds là, et essayé de leur demander comment ils fonctionnaient, comment ils animaient leur communauté de startups, et je me rends compte que un bon accélérateur, c'est un bon fond, et un bon fond, c'est un bon accélérateur. C'est-à-dire, en gros, le job d'un fond, pardon, c'est principalement de matchmaker un peu les entrepreneurs qui ont des choses à se dire entre eux, matchmaker les partenaires le réseau. Le réseau, c'est majeur finalement, pour avoir connu 2-3 accélérateurs et en avoir piloté un aussi. La valeur, elle est là, parce que les curriculums de workshop, de machin, c'est vrai que
Écoute, moi, après avoir fait, je débute dans ce métier-là, qui a une learning curve qui est assez longue, donc avec beaucoup d'humilité, ce que j'ai appris en tout cas au bout de 3 ans, au contact des entrepreneurs, j'ai vu 2000 startups en 3 ans, j'ai investi dans 55, j'ai appris que en fait les entrepreneurs ont besoin essentiellement de 3 choses. La première chose, bon, bien évidemment, ils ont besoin d'argent, ça c'est sûr, mais ils ont besoin de smart money, ils ont besoin plus qu'un chèque, et ce qu'ils ont besoin, c'est, en tout cas très très early stage, ils ont besoin d'abord d'un support émotionnel. Ça paraît con, mais ils ont besoin de gens qui ont déjà fait ça, qui ont été dans leurs shoes, qui comprennent, qui a le langage entrepreneur. C'est pour ça que moi, je suis très bullish sur des investisseurs qui sont entrepreneurs. Parce que je pense pas que tu puisses discuter avec un entrepreneur et un start-upper si t'as pas fait. Enfin, moi, je veux bien apprendre le deltaplane, mais pas avec quelqu'un qui a jamais fait du deltaplane, quoi. Parce que c'est quand même trop dangereux. Donc ils ont besoin de support émotionnel, parce qu'une start-up, c'est du rallye, quoi. Il y a plein de virages, il y a plein de bumps on the road, il y a plein de passages dangereux. Et tu as besoin d'un copilote, et puis pendant que tu conduis, mais aussi le soir au bivouac, quoi, en fait, pour échanger d'expérience. Donc ça, c'est de l'argent, du coaching émotionnel. Et puis la troisième chose, c'est du réseau. C'est-à-dire que aujourd'hui, on demande aux startups d'aller de plus en plus vite. Donc moi, ça fait un peu plus de 20 ans maintenant que j'ai commencé ma première startup, j'avais 23 ans. Très jeune, donc j'ai accumulé en plus de 20 ans pas mal de contacts avec pas mal de monde, donc je peux faire à la fois en Europe, en France et aussi dans la Silicon Valley, donc j'ai cette capacité à, puis j'adore faire ça, quoi. J'adore connect the dots, comme disent les Américains, et donc je pense que ça a aussi beaucoup de valeur. Donc si tu sais apporter ces 3 choses-là, c'est top. Si te manque une de ces 3 choses-là, c'est difficile de faire son métier. Il y a des gens qui font, tu vois, des accélérateurs, surtout en France, peut-être ont une expérience d'entrepreneur, peut-être ont même du réseau, souvent très localisé, alors qu'aujourd'hui, les projets sont de plus en plus mondiaux. Donc, c'est bien d'avoir une expérience et du network, mais il faut qu'il soit global, sinon ça ne sert pas à grand-chose, mais qui n'ont pas d'argent à investir. Donc en gros, je pense qu'il faut les 3.
Ouais, faut les 3. Et sur, moi j'ai juste une question, tu sais, sur en France, mon principal investisseur, c'est pas, il est pas privé, c'est plutôt l'État, c'est plutôt BPI, tout ça, c'est vrai. Bon, Qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Est-ce que quand toi, je sais pas, tu lances ta startup à Limoges, l'idée, elle est scalable à mort. C'est quoi le parcours que tu conseillerais à quelqu'un qui a une idée hyper scalable, une team super complète? Est-ce que tu lui conseillerais de tout de suite de partir assez rapidement à l'étranger? Et est-ce qu'il faut se reposer sur les différentes aides publiques qu'on a en France?
Ouais, c'est une bonne question. Écoute, pour illustrer ma réponse, je vais te prendre un exemple très concret. J'ai investi dans une boîte de Limoges, comme tu dis, et dont je suis très très fier, qui s'appelle Willow aujourd'hui. Hugo, quand je l'ai rencontré par hasard, parce que je reviens à Limoges tous les ans, et je l'ai rencontré à Noël entre un boudin et un riz de veau, quoi. J'ai rencontré un gamin, je dis un gamin parce qu'il avait, je sais pas, 25 ans à l'époque, qui avait un projet absolument génial. Ils ont inventé un robot pour changer notre manière de se laver les dents. C'est pas une brosse à dents, hein. C'est un complètement un nouveau procédé qui est un truc absolument génialissime. Et il a monté ça avec son père qui est dentiste. Donc tu vois, il cochait vraiment pas les cases. Le mec, il est à Limoges, il a 25 ans, il a monté une boîte avec son père. Enfin bref, tu vas voir un VC avec ça, quoi. Tu vois, le mec, il dit attends, il répond pas au canon habituel de l'entrepreneur. Et sa difficulté, c'était quoi? Il dit bon, écoute, localement, j'ai personne qui peut m'aider, tu vois, dans mon environnement local proche, sur le sujet que je suis en train de traiter. C'est-à-dire que j'ai beaucoup d'affection pour Limoges, mais sur ce sujet-là, c'est pas vraiment the place to be. Deuxièmement, je suis entouré de gens qui me disent que je suis un rêveur et que c'est pas moi qui vais révolutionner le monde, alors que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. C'est-à-dire que je n'ai pas le framework d'ambition. Et on me dit qu'il faut que je revienne les pieds sur terre, etc. Et voilà. Et troisièmement, j'arrive pas à lever d'argent. Il m'a fait la démonstration de son truc, qui était très naissant et qui était, j'ai trouvé très intéressant, mais qui vraiment était un peu, comment dire, rudimentaire à l'époque. Il me dit, ben voilà, on me dit que c'est un appareil, imagine une sorte de protège-dents, un mouthpiece, qui est relié à un robot.
Ça s'appelle comment?
Ça s'appelle Willow, W-I-L-O. Voilà, je vous invite à aller sur willow.com et de regarder l'appareil qui est juste magnifique d'ailleurs. Après ça, c'est le résultat de pas mal de choses dont on va parler. Mais on lui disait, mais non, mais il faut pas que tu fasses du consumer, machin, il faut que tu fasses du B2B. C'est souvent le conseil qu'on donne en France, ce qui est débile. Voilà. Et le conseil qu'on lui avait donné, c'est de dire, bah, il faut que tu vendes ça à des hôpitaux pour laver les dents des gens qui sont dans le coma, parce que tu comprends, ces gens peuvent pas se laver les dents, et puis ça fait chier les personnels soignants de laver les dents de ces gens-là. Mais je trouvais ça tellement débile. Je lui dis, mais c'est quoi ton marché? Et il me répond, il me dit, mais c'est tous les gens qui ont des dents. Et donc là, j'ai fait un rapide calcul. Je me suis dit, ça fait quand même beaucoup de monde.
Et moi, en fait, ça fait du monde.
Voilà. Et en fait, ma conclusion, c'était bon. En fait, j'ai en fait un mec génial en face de moi, qui a une vraie ambition, qui a un projet qui est très intéressant avec un marché colossal, mais qui est juste pas au bon endroit, qui est mal né, quoi, en fait, tu vois. Et je lui ai dit, écoute, viens. Donc à ta question, quand est-ce qu'il faut venir? Je pense que c'est un peu comme avec les enfants. Il faut déménager soit quand ils sont petits ou soit quand ils sont plus à la maison. Je crois que le côté commence. Si ton projet est vraiment global et que tu as une ambition toi-même globale, il faut se mettre dans cette trajectoire-là le plus tôt possible, parce que plus tu attends, plus c'est difficile. Une fois que tu as créé ton centre de gravité, c'est-à-dire ton équipe, ta culture, tes partenaires, tes clients, tes investisseurs localement, c'est très difficile ensuite de déplacer ce centre de gravité. C'est beaucoup plus facile quand c'est super early stage, c'est ce qu'il a fait, il est venu. Long story short, là où il n'avait absolument pas de traction en France, il a eu une traction immédiate aux États-Unis, où les gens lui ont dit, non mais attends, ton truc, c'est génial. Il a appris aussi beaucoup de choses qu'il n'aurait jamais appris en France, notamment par exemple, on lui a dit, non mais attends, et lui il était très amoureux du produit, du hardware. Et on lui a dit, non, mais attends, en fait, ce que tu fais, c'est de la Nespresso, de la brosse à dents. C'est-à-dire que l'appareil, on s'en fout. Le vrai intérêt, c'est le consommable. C'est-à-dire chaque fois que tu te brosses les dents, il y a une capsule que tu mets dans le truc et refais ton modèle économique et ton go-to-market. Et là, il s'est rendu compte, il s'est dit, mais merde, en fait, je vends pas un appareil. Je vends un peu à la Dollar Shave Club, tu vois, une sorte de subscription modèle. Et l'appareil, je vais le vendre à tout le temps. Quoi, tu vois, exactement. Et ça change complètement la nature du deal. Et très rapidement, on a présenté le dossier à des VC français qui ont pas sauté sur le truc, qui comprenaient pas, c'était loin, Limoges, ils voulaient pas y aller, le hardware c'est dur, machin et un. Et ensuite, on l'a présenté à des VC américains qui, eux, en 4-5 semaines, ont complètement sauté sur le truc, et c'est Kleiner Perkins qui a fait le deal. Et les mecs Kleiner Perkins, ils ont fait une deal en 4 semaines, et tu sais ce qu'ils ont fait en 4 semaines? Ben, ils sont allés à Limoges. Ils sont allés à Limoges. Les mecs de Kleiner sont allés à Limoges. Et alors qu'il n'y a aucun VC parisien qui a pris la peine de descendre à Limoges pour regarder le dossier. Donc, c'est pas du tout la même
chose. C'est ça le sens. En fait, faut sortir. Faut pas hésiter à sortir du territoire pour mieux revenir finalement par la suite. Mais ça, c'est. Ouais.
Ouais. Et oui, aujourd'hui, Willow, c'est une boîte qui. Donc, ils ont levé avec Kleiner Perkins, qui a beaucoup aidé, qui leur a apporté beaucoup plus que de l'argent, mais une vraie expertise. Le produit est fabriqué en Chine. Et ils ont un bureau en Chine, ils connaissent tous les manufactureurs, ils connaissent le produit a été entièrement redesigné. Ils s'apprêtent à sortir là dans quelques semaines. Ils en sont déjà, je crois qu'ils ont levé presque 15 millions, tu vois, alors que le produit n'est pas encore sorti. Ça, c'est un truc qui est absolument impossible en France, mais je ne sais pas si ça va marcher. Mais en tout cas, si c'est un marché, ça peut être une billion dollar compagnie. Et c'est ça ce qu'on fait. Voilà ce qu'on fait. C'est repérer des talents très tôt, des pépites, les mettre sur une trajectoire. Okay. Sur un écosystème qui n'est pas le leur et aléa jacta est, qu'en fait des fois ça marche, des fois ça marche pas.
Ouais, c'est un bon use case de ce que vous faites. Ça illustre pas mal. Quelques petites questions comme ça. Alors, c'est des questions que j'ai chopées sur le blog de Sequoia Capital, de la newsletter, que je trouve pas mal. Tu me diras ce que t'en penses, mais...
Je les connais bien, c'est des amis, quoi. Mais
j'ai trouvé... quelle est la question que tu utilises le plus quand tu interviews des candidats, en fait, à The Refiners? Ouais.
Moi, la première question que j'ai, c'est pourquoi tu fais ça? Ça fait longtemps que j'ai... c'est un défaut que j'avais au début qui était de poser la question de qu'est-ce que tu fais et d'essayer de juger, d'évaluer en fait l'idée. Moi, je ne sais plus maintenant, après 2000 startups, c'est quoi une idée hot et une idée qui n'est pas hot. Quoi, quoi. Je juge plus d'idée, puis ça m'intéresse plus beaucoup. Ça m'intéresse, le sujet m'intéresse bien évidemment, il faut qu'on parle de quelque chose, mais je me dis, beaucoup de gens parlent du product market fit. Moi, encore une fois, je suis un investisseur qui est super, super early stage. Moi, je vais être le premier investisseur, je vais être le premier chèque dans la boîte.
D'accord. Donc,
le product market, moi, je suis pré-revenu, je suis même pré-product, quoi. Tu vois, je suis pré-tout, quoi. Je suis une sorte d'obstétricien, quoi, tu vois, de la startup, quoi. Donc, moi, je suis pas un pédiatre, quoi. Tu vois, je fais des échographies, moi. Je regarde des, donc on voit pas grand chose, hein, sur l'échographie. Beaucoup de gens regardent le product market fit, mais encore faut-il avoir un product, encore faut-il avoir un market pour juger d'un product market fit. Moi, ce que je regarde, c'est le founder product fit. C'est ça qui m'intéresse. Tellement difficile de créer une startup. Que si tu n'as pas un lien émotionnel, s'il n'y a pas du pathos qui est engagé dans la relation entre l'entrepreneur et son sujet, et pas l'idée, mais son sujet, c'est ça ce qui m'intéresse. C'est de comprendre pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à faire ce qu'il veut faire, ce qu'il est en train de faire maintenant, il ou elle d'ailleurs, quelle est sa vision, qu'est-ce qu'il sait que les autres ne savent pas, qu'est-ce qu'il a découvert, comment est-ce qu'il en parle. Et quel est son lien avec le sujet? Parce que c'est tellement dur, il y a tellement d'obstacles sur la route que si t'as pas un lien émotionnel qui est un peu irrationnel, au premier chaos sur la route, quoi, en fait, tu vas lâcher. Quoi. Donc moi, c'est la première question que je me pose, c'est ça. Donc ça veut dire que je me pose la question essentiellement du porteur de projet. Moi, ce que j'analyse avant tout, c'est le porteur du projet. Son lien avec le sujet, Ce que je regarde, c'est est-ce que il est vendeur? Parce que ouais. Moi, je veux des profils de vendeurs, parce que créer une startup, c'est vendre une idée d'abord, une idée à sa famille, à ses amis, à ses cofondateurs, parce que t'as rien à leur proposer, donc il faut savoir vendre ton idée à des investisseurs, à des partenaires, à des clients. Donc, si t'es pas vendeur, si t'es pas vendre ton truc, déjà, ça, c'est un critère que je regarde énormément. Donc, le lien émotionnel, si t'as des capacités de vendeur. La troisième chose que je regarde, c'est la connaissance que tu as du sujet. Moi, je suis un investisseur, je suis généraliste. Alors, j'ai une.
Ouais, faut que tu connaisses un peu les chiffres, les bons chiffres.
Oui, je connais. J'ai une connaissance très globale. Bon, bien évidemment, plus je fais ce métier, plus cette connaissance augmente. C'est normal. Et j'ai besoin de gens avec dont j'ai le sentiment qu'ils en savent, en tout cas, plus que moi. C'est pas toujours le cas, hein, d'ailleurs. Donc, j'ai besoin de regarder la profondeur de connaissance du sujet qu'ils ont. Le quatrième chose que je regarde, c'est est-ce qu'il y a un raisonnement derrière tout ce qu'ils disent. Je m'en fous que le raisonnement soit juste ou qu'il soit faux. Ça, il y a d'ailleurs 90% de chances que leur raisonnement soit faux. Mais la question, c'est pas est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est faux. C'est est-ce qu'il y a un raisonnement. Si tu me dis, je vais vendre 9,99 par mois, je vais te poser la question, pourquoi tu vends 9,99 par mois.
Et s'il n'y a pas de raisonnement, faut pas que ce soit juste posé.
Si tu me dis non parce que les autres vendent 9,99, bon bah. Là, je demande ces red flags et je me dis, il y a un problème. Et le dernier critère que je regarde, c'est est-ce que la personne avec qui je parle est un connard ou une connasse hein
Si ça fit humainement.
Est-ce que ça fit humainement? Ce qui est très, d'ailleurs, un connard pour toi et pas forcément un connard pour moi ou l'inverse. Voilà mon framework. Tu me poses la question, tu vois, c'est un truc que j'ai pas mal réfléchi.
Ouais, donc il y en a trois angles différents.
Et puis, bien évidemment, il y a le marché, la taille du marché. Ça, après. C'est après.
Oui, mais finalement, ça rentre un peu dans la connaissance.
Ouais, si tu me dis, si j'ai coché toutes les cases, mais que, en fait, le marché, c'est de vendre du fromage de chef sur le plateau du Larzac, je vais pas faire, quoi, tu vois. On est d'accord.
Ok. Et pour toi, quel serait le conseil qu'un entrepreneur devrait garder en tête lorsqu'il commence?
La première chose, c'est de comprendre que la vie d'entrepreneur, c'est une vie de merde, et de sortir de l'image d'Épinal romantique qu'on avait un peu construit sur l'entrepreneur, mais qui est bien aussi parce que ça crée des vocations et c'est super. On n'a jamais vu autant de personnes vouloir créer sa startup et ça c'est bien, mais il faut sortir de cette image idéalisée. C'est quand même une vie de souffrance dans laquelle tu perds plein de choses. Tu perds du temps d'abord parce que tu perds de l'argent, tu perds aussi des contacts, des amis, ta famille, c'est compliqué. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à perdre en fait. Donc il faut être conscient de ça. Et donc, il faut se poser bien cette question-là. Et puis, la deuxième chose, c'est de comprendre aussi que ça va prendre du temps. D'avoir conscience, parce qu'on lit plein de choses, on se dit, ouais, il a monté sa startup 2 ans après, il l'a revendu à Google et il a gagné des millions. Il y a des gagnants du loto toutes les semaines, mais la réalité des gens au quotidien, c'est pas celle-là. Et ça, monter une startup, ça prend du temps. Et puis, la troisième chose, si t'es sur une startup globale à hyper croissance, encore une fois, c'est de bien comprendre comment ça fonctionne. Il y a des étapes, c'est un slalom avec des portes et que tu dois pas. Le conseil que je donne, donc tout ça en fait, la meilleure façon de répondre à tout ça, c'est finalement de parler avec d'autres entrepreneurs qui sont déjà passés par là et qui vont être capables de parler un peu de leur parcours et de regarder si c'est compatible avec ce que toi t'as envie de faire.
C'est dur quand pour avoir accompagné de quelques startups, c'est dur de trouver des serial entrepreneurs en France, tu vois. Des mecs ils sont prisés par les principales structures en place. C'est pas qu'ils veulent pas donner du temps, au contraire, mais c'est que il y en a pas beaucoup.
Non, mais t'as raison.
Tu vois, aux États-Unis, c'est différent. Les mentors, les advisors, c'est tout de suite des mecs qui ont fait 3-4 boîtes. Ici, je te parle pas de l'accompagnement non entrepreneurial qui représente 90% de la France, mais je te parle des 10% restants que se partagent les accélérateurs un peu synchro. C'est chaud quand même.
Oui, t'as entièrement raison. Maintenant, attention, il y en a de plus en plus. Moi, je suis parti en 2010 parce que, encore une fois, c'était une sorte de no man's land. et que j'avais l'impression d'être une sorte de mouton noir, hein, tu vois, et que je pense que depuis 2010, l'écosystème, il a vachement évolué, il s'est vachement amélioré. Mais il faut pas croire qu'on soit arrivé, hein, on est encore, on est passé l'âge de pierre, on est à l'âge de feu, quoi, du feu, quoi, mais on n'est pas encore à la scission nucléaire comme peuvent être des écosystèmes comme la Silicon Valley, New York ou la Chine. Donc on a encore beaucoup de travail, mais ça s'est beaucoup amélioré. Mais tu as raison, il y a une question aussi de culture, je pense, que même si elle est en train de changer, tant mieux aussi, mais c'est vrai que en France et en Europe, hein, c'est pas simplement en France, il y a un peu la notion de quand tu sais quelque chose, tu le gardes pour toi, c'est un peu comme un secret que tu gardes précieusement. Moi je suis du Limousin, donc tu peux faire l'analogie avec les coins à champignons, c'est exactement ça. Il y a encore un peu cette culture là qui est en train de changer, alors que ici dans la Silicon Valley en tout cas, knowledge is a currency, quoi, tu vois, c'est une monnaie d'échange. Ce que je sais est fait pour être partagé, en fait. Et ça va créer de la dette auprès des gens. Et cette dette va me permettre de toucher plus tard pay forward, quoi, en fait, quoi. Et puis il y a une autre culture, effectivement, et ce qui fait tout le talent d'ailleurs de la Silicon Valley, c'est que il y a le payback, quoi, en fait. On t'a aidé, donc tu aides. T'as reçu de l'argent, t'en as gagné, donc tu réinvestis. Donc c'est ça qui fait le cercle vertueux, voilà. Mais je pense qu'on se dirige vers ça. Sauf que faut surtout pas croire qu'on y est. Faut continuer à bosser. Et je pense qu'il y en a encore pour 5 ou 10 ans minimum, peut-être 15.
La nouvelle version de la French Tech, là, elle est pas mal, elle a assaini quand même pas mal les choses. Qu'est-ce que t'en penses de ça?
Moi, je suis pas un super fan de ça, si tu veux. Moi, le problème que j'ai, je trouve que tout ce qui est souverainisme m'inquiète toujours au plus haut point. C'est-à-dire que, vu de la Silicon Valley, on parle de French Tech, mais on parle pas de German Tech, de Japan Tech. Enfin bon, mettre la couleur d'un drapeau sur quelque chose, même si on n'a pas osé mettre bleu, blanc, rouge, on a pris un coq rose. Mais derrière, ça veut quand même dire bleu, blanc, rouge. Moi, ça me fait très peur parce que je pense que la tech est un phénomène qui est mondial, qui est global et qu'il faut surtout pas le restreindre à une nationalité. Notre ambition, c'est de créer quelque chose de global. Et donc voilà, moi je suis pour l'universalisme, je suis pour le métissage, et je suis pour une thèse. C'est notre thèse, elle est basée là-dessus, sur une vision universelle, sur une vision métissée, et sur une vision qui est clairement basée sur l'immigration. Forcément, tu vois, tout ce qui est recroquevillage sur une nationalité et sur des individus qui ont une appartenance nationale, que ce soit d'ailleurs en France ou même aux États-Unis, hein, parce que c'est le même phénomène ici aux États-Unis avec Trump ou le Brexit, etc. J'essaye de rester éloigné de ça. Moi, j'ai une vision beaucoup plus universaliste que ça. Je m'en fous que tu sois français, que tu sois allemand, que tu sois belge, etc. Je m'en fous, moi, ce qui m'intéresse. Et puis, je travaille pas pour le politique, tu vois, je suis pas là pour, je travaille pas pour la France, moi, tu vois. Je pense que, moi, ce qui m'intéresse, c'est les entrepreneurs, c'est les gens, tu vois, peu importe la couleur de leur passeport.
Et dernière question, qu'est-ce que t'aimerais voir se réaliser d'incroyablement science-fiction d'ici les prochaines années? C'est quoi l'invention que tu aimerais bien voir émerger de ton vivant?
C'est une bonne question. En fait, tout comme moi, je suis très excité. Je pense qu'on est face à une nouvelle révolution industrielle. Après l'ère de l'Internet, après l'ère du cloud et puis du mobile, c'était les trois, et du social, les trois grands trucs qui sont arrivés. Je pense qu'il y a vraiment des sujets autour de l'intelligence artificielle. Ce qui m'excite, c'est de définir l'intelligence artificielle non pas comme une feature, ce qu'elle est aujourd'hui un peu, mais plus comme une plateforme. Là-dessus, je pense qu'il y a des trucs vachement intéressants. Je pense que si l'intelligence artificielle devient vraiment une plateforme, alors je pense que tout va changer. Tu vois, aujourd'hui, on utilise des mobiles sur, si tu regardes par exemple tous les logiciels en SaaS, la grande majorité de ces logiciels aujourd'hui, c'est du remplissage de formulaires. Ok? C'est-à-dire que tu remplis du formulaire online, de la data, qui ensuite est processée, qui te fabrique des dashboards. Ok? Si l'intelligence artificielle devient une plateforme, eh ben, on aura des sortes de robots qui vont pas ressembler à iRobot, hein, mais ça peut être des robots dématérialisés. Mais du coup, on n'a plus à remplir des formulaires. Tu vois, il y a une sorte de, d'agrégation automatique. Il n'y a plus la notion peut-être de keyboard, tu vois, du clavier, puisque ça sera peut-être de la commande vocale, voire même si je projette avec du Neuralink, une connexion automatique.
Ouais, les ISM vont vraiment, vraiment, vraiment changer.
Ouais, avec mon cerveau, hein, peut-être même pratiquement. J'en sais rien, tu vois, tu me demandes une projection un peu science-fiction, quoi. Voilà. Et qui va pas fabriquer du dashboard, c'est-à-dire, bien sûr, je l'aurai ce dashboard-là, c'est-à-dire de la data sur laquelle, voilà, mais qui pourra prendre des décisions à ma place, tu vois. Donc, moi, c'est. Et donc, du coup, bah, tu oublies tout le web browser, tu oublies les applications mobiles. T'oublies tout ça, quoi, en fait. Ça va être complètement seamless, complètement embedded, je parle comme Jean-Claude Van Damme, quoi, mais complètement intégré dans nos vies. Et ça deviendra une nouvelle plateforme, comme l'a pu l'être le mobile en son temps, comme l'a pu être le cloud ou l'Internet au tout début.
Mais alors, du coup, sur cette question de l'IA, de la prise de décision, de la délégation de la prise de décision, j'avais parlé avec une experte en IA il y a 6-8 mois. Et en fait, elle m'expliquait qu'il y avait des tests qui, notamment, tu sais, sur l'IA dans les voitures.
Ouais.
Et les fameuses, tu sais, c'était à l'époque des incidents où la Tesla avait shooté, je crois, un cycliste parce que la Tesla avait pris la décision entre... je grossis un peu, c'est peut-être pas la bonne interprétation de l'événement, mais en gros, il y a eu un cycliste qui s'est jeté sur la route et il y a eu un choix à faire entre cracher la voiture et tuer tout le monde et tuer le cycliste. Enfin, je résume peut-être très, très grossièrement.
Ouais.
Et elle m'expliquait qu'il y a des questionnaires qui sont envoyés à des personnes en ce moment de mise en situation. Mise en situation A, la bagnole écrase trois grands-mères et tue une personne dans la bagnole mais sauve les enfants. Tu vois, tu as plein de mises en situation. Et ce que je me dis, c'est à un moment donné, c'est avec tous ces problèmes éthiques qui remontent à la surface et avec ce genre de choses, est-ce qu'il faut tout déléguer? Tu vois, est-ce que finalement l'intelligence artificielle, elle doit pas juste s'arrêter au coup de frein, tu vois, et que tu dois rien lui déléguer de plus, parce qu'à partir du moment où tu lui délègues autre chose, c'est là où ça commence à puer, tu vois.
Je suis entièrement d'accord, et tu poses la question sur les véhicules autonomes, mais tu sais que l'intelligence artificielle, elle est sur des sujets encore plus dramatiques, j'ai envie de dire, elle est très utilisée dans les conflits. Pour faire la guerre. Exactement. Et t'as Jody Williams qui est prix Nobel de la paix quand même, quoi, en fait, qui disait un truc qui était vachement intéressant, qui disait que si on autorise une machine qui est dirigée par des algorithmes à décider qui est-ce qu'elle va cibler, quoi, en fait, qui elle peut attaquer ou qui elle peut ne pas attaquer. On franchit une limite un peu éthique, c'est-à-dire que c'est absolument immoral. T'as entièrement raison. Et ton exemple du cycliste.
Parce que la ligne de la responsabilité, elle est super chaude à retrouver après.
Bah, une machine ne peut pas être morale. Et c'est une machine, donc la moralité, elle appartient à l'humain. Pour en revenir à ta question, c'est marrant. Tu sais, j'ai moi-même un podcast qui s'appelle Silicon Carnet, et j'ai fait un podcast sur l'intelligence artificielle il y a quelques jours. Et je parlais avec des experts d'IA ici dans la vallée, des mecs comme Julia, Grégory Renard, tu vois, Bertrand Schmitt, tout ça, des trucs, des mecs, des pointures. Ils sont souvent français, d'ailleurs.
Oui.
Julia a un point de vue là-dessus. Il est patron de l'IA chez Samsung. C'est lui qui a inventé Siri, hein, quand même, donc chez Apple. Donc,
oui.
C'est de quoi il parle. D'accord. Il me disait un truc qui était intéressant. Il disait, le niveau 5 d'autonomie des véhicules, donc c'est vraiment ce que tu décris, c'est-à-dire... En gros, tout est complètement autonome. On n'y arrivera jamais. Mais jamais. C'est-à-dire que jamais. C'est pas possible. En revanche, l'intelligence artificielle, elle est déjà présente dès le niveau 1. Et je pense qu'on peut arriver d'ici 5 ans à ce qu'on appelle le niveau 4. Et le niveau 4, tu sais, 95% des accidents aujourd'hui sont dus à des erreurs humaines d'inattention, essentiellement. Sans parler d'une voiture qui se conduit complètement de façon autonome, le niveau 4 permet une autonomie et une intelligence du véhicule qui est déjà spectaculaire. Donc, je pense qu'il faut juste pas ce rêve qu'on nous a fourni du niveau 5. C'est pas le bon objectif. Je pense qu'il faut s'arrêter au niveau 4. Et la différence entre le niveau 4 et le niveau 5, c'est la morale, c'est l'éthique.
C'est exactement ça.
Exactement.
À franchir, quoi. Voilà.
Exactement. Et dès qu'il y a un problème moral ou un problème éthique, on ne peut pas le confier à une machine, quel que soit le sujet, que ce soit un véhicule autonome ou n'importe quoi, d'ailleurs, en fait. Donc voilà, allons au niveau 4, c'est déjà absolument génial.
Ouais, c'est déjà bien. Super. Carlos, qu'est-ce qu'il y a sur ta home screen de smartphone ? Peut-être que tu as un Samsung ou peut-être que tu as un iPhone.
Alors, je suis sur un iPhone. J'ai essayé Samsung, mais j'ai beaucoup de copains chez Samsung.
T'as essayé, c'est bien.
Mais j'y arrive pas, quoi. Je sais pas. J'y arrive pas. Donc, je suis sur iPhone.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que j'ai sur ma home screen?
Les apps que tu utilises le plus.
Ben, j'ai pas beaucoup d'apps, en fait. C'est-à-dire que sur ma home screen, j'ai pas. En fait, d'abord, j'utilise que mon premier écran. Le reste, après, c'est pas vraiment. J'ai en tout, je vais te dire, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 écrans. Et j'en utilise finalement que un. Et qu'est-ce que j'ai sur ce premier écran? J'ai Facebook.
T'as pas fait en résolution 2020, je dégage Facebook, non, t'es resté sur ça? Parce qu'il y en a pas mal en ce moment. Hein.
Ouais, bon, je trouve que c'est un peu du, comment dire, je sais que Jean de La Roche-Brochard, qui est un très bon ami à moi, on est des copains, et il m'a annoncé qu'il était ni sur Facebook ni sur Messenger, du coup on se parle beaucoup moins. Bon, je trouve ça dommage. Mais j'utilise Facebook parce que je pense que chaque génération a son outil et que moi j'ai 40 et quelques années, que mon outil c'est Facebook. Mes filles qui ont 13 ans et 16 ans, elles sont sur TikTok et sur Snap, et c'est leur outil. Et je pense que c'est bien. Les outils, c'est un peu comme des boîtes de nuit, quoi, tu vois. Moi, j'aimerais pas que mes parents viennent dans la même boîte de nuit que moi, quoi, en fait. Donc on a un club, hein, il s'appelle Facebook pour les quarantenaires. J'invite pas les gamins de 16 ans à venir sur Facebook. D'ailleurs, ça me ferait chier qu'ils y soient, quoi, tu vois. Voilà. Donc, j'ai Facebook que j'utilise beaucoup, finalement, hein, parce que j'adore Messenger. Je suis arrivé sur WhatsApp assez tardivement, parce que, c'est pas très utilisé, d'ailleurs, aux États-Unis, hein, WhatsApp. Non, pas tellement. Parce que c'est beaucoup plus Messenger.
Parce qu'en France, là, enfin, moi, professionnellement, ça commence à
absolument
avoir,
mais c'est absolument pour ça que j'y suis arrivé. Ouais, la pénétration en Europe est beaucoup plus forte qu'aux États-Unis. C'est d'ailleurs pour ça que WhatsApp a été racheté par Facebook aussi cher, hein. C'est parce que le overlap, c'est difficile quand Facebook achète une start-up. Quand tu lui dis à Facebook, ouais, j'ai X millions d'utilisateurs, il y a quand même 90% de chances que ce soit les mêmes que ceux de Facebook. On est d'accord, hein. Et en fait, WhatsApp, le overlap avec leurs utilisateurs était très faible, et ce qui fait que d'ailleurs ils ont acheté très cher, parce que WhatsApp était très présent dans des géographies, sur des populations que Facebook n'avait pas.
Il en reste encore complémentaire.
Voilà. Et moi, j'y suis venu parce que les Européens utilisent beaucoup WhatsApp. Et moi, je suis d'origine espagnole. Alors en Espagne, c'est le truc, hein, WhatsApp. Et bon, j'aime bien. Hein, c'est bien, c'est cool, c'est mon nouveau téléphone. Quoi, en gros, quoi. J'ai Facebook, j'ai WhatsApp. C'est pas très original, hein, ce que je vais te dire, mais après, j'ai Twitter. Je suis l'utilisateur numéro 7000 sur Twitter. Donc, j'étais au tout début de Twitter. Mais j'utilise pas énorme Twitter. Je regarde qu'est-ce que j'ai. J'ai Spotify parce que je trouve ça absolument génial, parce que moi, je suis un musicien et que pour moi, ça a été un gros shoot dans la gueule, la dématérialisation en fait de la musique et l'accès. On avait tous peur qu'on écoute tous la même chose, et en fait non, moi je découvre plein d'artistes, j'adore les Spotify, Discovery, tout ça.
Si on est à peu près de la même génération, est-ce que tu as connu Radioblog?
Ah, bien sûr, j'ai connu Radioblog, bien évidemment.
C'est,
quoi, en
fait. C'est à chaque fois, je me dis, je vais le placer, ce truc-là. Mais si, ouais. Pour ceux qui connaissent ça, il y a comme, en fait, un jour, je ferai peut-être une spéciale sur les apps qui ont changé ta vie, ou les, parce qu'il y a vraiment 15, 20 ans, il y a des choses qui changent la vie des gens. Et moi, Radioblog, ça avait changé ma manière de faire la fête.
Oui, absolument. Ouais, c'est vrai.
Et en fait, un espèce de 10 heures avant l'heure, et ça s'est très mal terminé, parce que c'était l'aventure d'un fils et son père, je crois.
Ouais.
Et ça s'est très, très mal terminé.
Ouais. Donc, non, j'ai pas mal de médias, donc Spotify pour la musique, et puis j'ai YouTube, hein, parce que j'ai plus de télé. Je regarde plus du tout la télévision. Plus de télé. En fait, ma télé, c'est YouTube. Donc, j'ai aussi, bien évidemment, les Netflix, mais tu vois, je les ai pas sur mon premier écran. Je suis abonné, bien évidemment, mais très honnêtement, Netflix, je regarde pas. Je regarde, ça me fait chier les séries.
Non, pas sur ton portable, du coup, mais ouais.
Non, ouais, pas sur mon portable et pas de façon générale. Très honnêtement, je regarde des documentaires essentiellement. J'ai une appli disclaimer, je suis investisseur là-dedans, qui s'appelle Lovebox, qui est une appli de messagerie qui envoie des messages aux gens que tu aimes. Mais ce message, il arrive dans une boîte avec un cœur qui tourne. Donc c'est une sorte de SMS en stéroïde, quoi, tu vois. Donc ça, j'aime bien.
Comment ça s'appelle?
Lovebox.
Et Lovebox, ok.
Ouais, ils en vendent 20 000 par an. Hein. Ça marche très très bien. Bon, j'ai Uber parce que ici, à San Francisco, tout le monde se déplace en Uber. Instagram, mais très honnêtement, c'est juste pour suivre mes filles. Moi, je suis pas très photo. Voilà. Ouais. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai Trello. C'est un truc professionnel. D'accord. Pour moi, c'est mon CRM Trello. En gros, j'ai organisé dans Trello, quoi, en fait. Donc, j'ai Trello, j'ai Google Maps, bien évidemment, parce que et toi, c'est aussi quand tu disais de l'application qui était une sorte de shoot dans la gueule. Je me demande comment on faisait avant Google Maps. Moi, j'ai vécu sans Google Maps,
c'est vrai que ça,
donc et sans téléphone d'ailleurs aussi, quoi. Tu vois. L'autre jour, j'avais une conversation avec ma fille qui était vachement drôle. C'est elle se fichait de moi parce qu'on a en fait, quand ma première fille est née, elle a 16 ans aujourd'hui, ma femme m'a appelé, mais j'ai loupé le call. En fait, j'étais aux toilettes, quoi. Et en fait, mes filles me disaient, mais t'avais pas ton téléphone? Et je lui ai expliqué, mais c'était un Nokia 3610, quoi. Tu n'allais pas aux toilettes avec ton téléphone. D'abord, il n'y avait rien à faire, c'était juste un clavier. Donc, tu ne prenais pas ton téléphone. Ça paraît fou aujourd'hui, parce qu'on va aux chiottes avec son téléphone. Aujourd'hui, on fait des choses.
Allez.
Mais non. Et donc là, elle me regardait en disant, putain, c'est dingue, quoi. Tu vois,
ah ouais.
Ah ouais. En fait, non, c'était un truc qui, en plus, c'était énorme. Tu l'avais même pas dans ta poche, c'était trop gros. Tu vois, voilà. Donc, voilà ce que j'ai sur, tu vois, c'est pas très original. Si j'ai Notes, que j'utilise. Ouais.
L'application native.
Ouais.
J'ai
essayé plein de trucs et au final je reviens toujours sur Notes. C'est dingue parce que c'est tellement simple.
C'est mieux. Ouais. C'est de mieux en mieux.
Ouais, c'est de mieux en mieux. J'ai aussi mon wallet. Alors, je sais pas si ça c'est un truc en Europe. Ici on paye beaucoup avec le téléphone tout le temps.
Ici aussi.
Ouais. Donc je paye Apple Pay tout le temps avec mon américain. D'accord. En fait. Donc ça j'adore. Je fais ça tout le temps. Et puis j'ai podcast parce que j'écoute beaucoup de podcasts. D'ailleurs j'avais écouté le tien. Et voilà, c'est tout ce que j'ai.
Après l'original. T'es dans la vallée. Ouais, ça permet d'en déduire pas mal de choses. T'es synchronisé, t'es asynchrone. Tu sais, c'est la tendance en ce moment que moi j'observe sur tous les réseaux sociaux d'éteindre toutes les notifs, de passer en mode veille. T'es dans ce genre de comportement où tu t'en fous, tu laisses les notifs s'afficher.
Non, je suis toujours en mode. Tu sais, avec la petite lune là, c'est-à-dire mon téléphone ne sonne jamais et j'ai très peu de notifications. J'essaie de limiter les notifications à très peu de choses, mais je suis toujours on. C'est-à-dire okay. que, sauf que je veux pas être esclave, c'est-à-dire que je veux pas que ce soit le téléphone qui vienne. Je suis pas en mode push, je suis en mode pull. Mmh. Mais je pull énormément, okay. quoi. C'est-à-dire que j'ouvre mon téléphone très souvent. Dans la vallée, mmh. okay. Ouais. tout le monde a l'air soi-disant très détendu. On bosse tous de chez mmh. nous. Il y a pas de 9h-17h. Tu vois, c'est, on est tout. En fait, tout le monde fait plein de choses tout le temps, mais mais en fait, tout le monde bosse tout le temps, quoi, en fait, à n'importe quel moment de la journée, oui. y compris le week-end. Oui. Le week-end ne veut rien dire, quoi, en fait. Ouais, donc, ouais. Donc, en gros, j'essaye de limiter le push, mais je suis quand même très pull, quoi. Tu vois, je regarde beaucoup. Et pour moi, il n'y a plus d'horaire, il n'y a plus de journée, etc. Il n'y a plus de différence. Le dimanche, je suis plutôt off le samedi, généralement. J'essaye de faire une journée ouais. Off the grid. Mais le dimanche, ouais. Dimanche après-midi, je fais pas, ça je fais des trucs, quoi. Ouais, ça repart. Je prépare ma semaine, quoi, en fait, quoi.
Ouais, ouais, ouais. Ok. Et est-ce
ah, j'ai une autre app. Deux, trois apps. J'ai une autre app, ouais, peut-être, vas-y. Qui est plus originale. Ouais, j'en suis un gros fan, c'est Discord.
Ok. Ouais.
Qui pour moi est un nouveau réseau social que j'ai découvert parce que je suis aussi un gamer. Et que je joue pas mal
gamer,
à League,
ouais.
je joue pas mal à League of Legends et que okay. Du coup c'est les users. Moi j'ai des amis de j'ai des potes de 16 ans dans League of Legends et c'est eux qui m'ont fait. Je sais pas si vous connaissez Discord, c'est une sorte de Slack grand ouais. public, mais qui a été vraiment pensé au départ pour des gamers. On peut faire beaucoup plus de choses que dans Slack. C'est beaucoup mieux que Slack, hein, d'ailleurs. Ouais. Discord, c'est un gros carton, très utilisé sur auprès de la Gen Z, qui crée leur propre communauté, voilà. J'ai découvert Discord et je trouve ça topissime. Voilà. Donc j'ai Discord.
Okay. Voilà. Et les apps en ce moment tendance dans la vallée, c'est quoi moi je me rappelle qu'il y a 4 ans, 3 ans, c'était l'ère de la conciergerie, tu sais les c'est magique. Où t'envoyais un SMS, t'avais David Hasselhoff qui arrivait chez toi. je regardais ça avec beaucoup de tendresse. Mais en ce moment, c'est quoi la prochaine app que tout le monde regarde, qui va sortir, qui est déjà là? Tu le sens, ça, c'est...
Ben, en fait, je vais te dire un truc qui va peut-être te surprendre, c'est que je pense que les apps, c'est absolument ringard, en fait. Quoi. donc, je pense que... Enfin, plus personne n'investit, que ce soit de l'argent ou du temps, à fabriquer des apps. Non, je pense que c'est clairement passé de mode. Je pense que aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de construire d'abord une audience. Ça, c'est un peu la tendance. C'est-à-dire
On est dans l'ère du community building. C'est ça que tu dis, c'est que
Audience, moi ce qu'on dit ici c'est audience first product, quoi, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, avant de fabriquer un produit, tu fabriques une audience, et qu'une fois que tu as l'audience, tu fabriques ton produit sur la base de ce que tu as créé avec cette audience. Donc l'audience, tu la fabriques beaucoup en dehors de ton... Alors tu vas me dire, hein, tu peux fabriquer une audience avec Instagram, sur ton téléphone, etc. Mais quand tu parles de sujets un peu professionnels, finalement, c'est soit par du podcast, du blogging, des trucs. Donc tu reviens à ton desktop, que tu as des contenus plus enrichis. Fabriquer une app, tu vois, je reçois des pitchs. Hein, encore ce matin, je regardais un truc, je ne vais pas la nommer, mais une app, tu vois. Et je me disais, en lisant, c'est super bien fait, hein, c'est top, etc. Mais je me disais, mais putain, it's so 2016, quoi, tu vois. Je me disais, mais c'est tellement 2016. C'est tellement difficile aujourd'hui de fabriquer un produit, une app, et de le lancer dans le store pour acquérir une audience. Plus personne n'y croit. Donc, en gros, tu fabriques d'abord l'audience et peut-être qu'il y aura une app demain. Quoi, tu vois, c'est plus dans ce sens-là. Donc, c'est plus l'App Store. L'App Store est plus devenu un outil de discovery. Pas du tout, quoi. Tu vois. Donc, ça se passe ailleurs, quoi. La vérité est ailleurs.
Et est-ce qu'il n'y a pas une tendance sur les outils qui permettent de construire des communautés plus rapidement.
Parce que Discord,
un peu les tendances là.
Discord, ouais, Discord, c'est un bon exemple.
Là, je suis en... Discord, ça te permet de faire du community building. Mm. Là, je suis en train d'utiliser pour le podcast un truc qui s'appelle Substack.
Et ouais. Quand je regarde ouais. C'est assez à la mode dans la vallée. Je vois pas mal.
C'est à la mode.
Ouais. C'est à la mode parce que les gens. Je ne comprends pas trop pourquoi. En fait, il y a une sorte de transfert de médium à
Substack en ce moment. Ouais, bah même en France, tu vois, ça se sent un peu.
Ouais.
Et quand tu regardes le blog de Substack, c'est hyper intéressant parce qu'ils t'apprennent comment construire une communauté. Mmh. Et finalement, j'ai l'impression que même, tu vois, faire un podcast, tu vois, les applications de live broadcasting, tout ce qui te permet de créer du momentum à distance.
Ouais.
J'ai l'impression que ça c'est en train bah, de c'est
tu vois,
en train
typiquement, de bah là, justement pour citer une boîte française avec qui je discute que je trouve intéressante, je crois qu'ils y sont pas encore mais il y a encore un peu de boulot mais ils touchent du doigt quelque chose d'intéressant là sur ce sujet là dont tu parles, c'est Storm qui permet de live podcaster. Il y a peut-être un truc, ça me fait repenser
sur un...
Ouais, ça me fait
sur Snap.
Sur Snap, ils ont complètement. Ils sont nombreux, hein, ça, depuis Yellow, quoi, en France, tout le monde croit que c'est le go-to-market de Snap. Faut faire attention à ça. Mais ouais, ça c'est intéressant parce que ça fait penser aux radios libres, tu vois, ou à l'époque. Donc il y a peut-être quelque chose d'intéressant là-dessus. Je regarde un autre truc, alors c'est complètement sous le radar en ce moment, que je trouve assez intéressant, c'est un projet, c'est encore en bêta, c'est sur Test Flight, okay. C'est même pas une app encore, qui s'appelle Cappuccino. Et en fait, l'idée, c'est que tous les matins, tu poses une question, question à ton réseau, quoi. Imagine qu'on soit dans ton réseau, et en fait, chacun répond en quelques secondes à cette question-là. Donc imagine, et le matin... tu reçois, donc répond au format vocal, hein. Et en fait, avec toutes ces réponses, il va fabriquer une sorte de podcast. C'est-à-dire que tu as une question à lancer, tout le monde a répondu en 10 secondes, et le matin, t'écoutes ça, t'écoutes tes potes, quoi, en fait, qu'est-ce que vous avez pensé de l'émission d'hier, et puis boum, ça le monte, tu vois, de façon assez intelligente.
Bah,
Et t'écoutes ça comme un peu ton émission. Moi, j'ai trouvé ça génial, donc c'est, je suis en train de regarder ça. Donc à regarder, je regarde ça. C'est très 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 early, mais moi c'est ce que j'adore. Moi j'adore les projets quand ils.
Ah bah oui, c'est ce que tu disais, hein, t'es obstétricien.
Ouais.
Donc
ouais, moi je suis obstétricien. C'est ça.
Sur les livres, est-ce que t'en lis en ce moment? Est-ce qu'il y en a deux trois là qui t'ont un peu ouvert les chakras? Si c'est pas des livres, ça peut être des blogs, des lectures, quoi.
Bah, je lis beaucoup. Moi, je suis un littéraire à la base, hein, donc. Je lis beaucoup de choses, mais alors pas trop de trucs business. Enfin, j'ai eu une époque où je lisais énormément de trucs business. Tu vois des bouquins Zero to One, tu vois de Peter Thiel, machin, des trucs comme ça.
Ouais,
Descaling, machin. Tu vois des trucs. J'ai des livres, hein. En fait, ça me fait chier parce que généralement, c'est
t'as tout dans la table. T'as tout dans le
ouais. Sein. En fait, écoute, le succès d'une startup tient finalement à pas grand-chose et essentiellement à deux choses au timing. Timing is everything. Mmh. On en a parlé au tout début de ce podcast. Et puis le deuxième critère, c'est la chance. Donc tous les gens qui t'expliquent comment est-ce qu'il faut faire avec un livre de recettes, tu vois, c'est ces livres de business sont comme des livres de cuisine, c'est sympa, hein, à lire, à regarder, etc. Mais c'est pas parce que Bocuse te donne la recette de sa blanquette de veau que tu arriveras à faire une blanquette de veau aussi bonne, quoi. Toi, donc finalement, ça sert pas à grand chose. En fait, il faut regarder ça comme tu les vois là, quoi, tu vois, comme tu les vois ici, quoi. Il faut regarder ça. Bon. Donc, j'évite maintenant d'en lire. Et en fait, ça, je le lis plus online. Je lis beaucoup de blogs. Je lis, là, tu vois, avant notre interview, j'étais en train de lire. Ce qui est top, c'est que dans ton métier, tout le monde produit du contenu maintenant, et donc tu es en train de lire un blog post de Brian Kimmel, qui est une investisseur, une femme qui a monté son fonds. Donc elle est un peu comme moi, tu vois, elle est juste un poil un peu en avance, un peu plus en avance que moi. Et elle racontait comment est-ce qu'elle avait levé son fonds, etc. Donc ça, j'adore. Je lis beaucoup de choses comme ça. Je lis beaucoup de choses sur dans mon domaine, qui est le domaine de l'investissement. Ouais. Et tu vois, j'ai un bookmark qui s'appelle Investment Lessons, où tout ce que quand je lis quelque chose où je me dis tiens, ça c'est vraiment un enseignement, je le bookmark. Et j'essaie de me faire des collections. Donc je lis beaucoup ça. Après, je lis ce que j'ai lu cette année que j'ai trouvé topissime, c'est moi je m'intéresse, ça fait 10 ans que je suis dans la vallée, mais je m'intéresse beaucoup en ce moment à la contre-culture de la Silicon Valley. Et j'ai lu un livre exceptionnel qui s'appelle de la contre-culture à la cyberculture, from counterculture to cyberculture. Je suis pas sûr que le bouquin ait été traduit, je sais pas, peut-être. Qui était fascinant sur comment est-ce que la culture de la Silicon Valley est finalement on croit que c'est les entrepreneurs et les investisseurs, pas du tout en fait, ça vient du mouvement des hippies qui ont fondé
les technocrates tout ça
si tu veux, si je réfléchis par exemple aux incubateurs, aux coworking space, c'est finalement des communautés qui se réunissent pour partager des ressources ensemble et ça vient de la culture hippie, quoi, tu vois. La libération, c'est-à-dire face au système qui est oppressant, parce que je rappelle que c'est le mouvement hippie, c'est un mouvement qui est né suite à la Seconde Guerre mondiale, où l'informatique était quelque chose qui était vraiment des mainframes, qui était entre les mains, on était en pleine guerre froide, entre les mains, l'accès en fait à cette technologie était essentiellement entre les mains des gouvernements, des grandes puissances, et l'individu, il allait se faire bouffer, quoi, tu vois, en fait, par ce système-là. Et c'est la Silicon Valley qui a libéralisé l'accès à la technologie avec la micro-informatique pour redonner le pouvoir à l'individu, pour que l'individu s'affranchisse et fasse des choses avec. Et ça, c'est fascinant quand tu relis cette histoire-là. Et on se dit finalement, parce que nous, on pense qu'on est vachement loin de tout ça. Mais en fait, il y a à nouveau des mainframes qui arrivent, des systèmes oppressants. Facebook en est peut-être un. Je pense qu'on va revivre un phénomène de contre-culture qui va nous à la fois nous relibéraliser en fait de ces systèmes oppressants. Ça c'est un truc qui m'a passionné et que je continue à explorer. Je trouve très intéressant. Et puis après je lis de la littérature parce que moi je suis un littéraire, donc quand je prends
fiction,
un bouquin,
tout ça,
quand je prends un bouquin, j'aime bien lire de la littérature, ça n'a rien à voir avec mon... c'est un peu une sorte d'évasion. Je relis des vieux trucs, tu vois. J'ai relu L'étranger de Camus il n'y a pas longtemps. J'ai relu du Kessel, j'ai relu du Kafka, j'ai relu du Borges que j'adore. En fait, mais c'est vraiment de la littérature.
Mais bon. Ah, mais ça fait plaisir de parler à un entrepreneur littéraire. C'est.
On n'est pas nombreux.
Non. Alors, je suis pas entrepreneur, mais je suis littéraire, donc je vois très très bien la nostalgie que tu peux avoir sur certains ouvrages, sur certains, certaines
toi,
passions.
Filles,
difficile à partager souvent. Difficile de dire. Ce week-end, j'ai lu Flaubert.
C'est vrai. Tu vois, moi j'ai la chance aussi d'avoir des filles qui sont au lycée, donc qui découvrent en fait ça. Il n'y a pas longtemps, ma fille a bossé Les Fleurs du Mal de Baudelaire, qui est un truc que je n'avais pas relu depuis machin. Et du coup, je me suis replongé dedans, je l'ai relu. Et je trouvais ça génial. Je me suis dit, mais quel bonheur. Il faut relire ces trucs-là. Ça me délecte complètement. Donc voilà, j'aime bien ça. Mais bon, je ne suis pas un scientifique.
Des vieux films un peu dans le ciné, t'es un peu comme ça aussi ?
Ouais, j'adore cette année un film qui m'a complètement scotché. On en parle souvent avec ma femme et on a adoré tous les deux. C'est Parasite, quoi, que j'ai trouvé. Ça a été un truc incroyable. Ils ont un succès fou avec ce film et c'est vraiment mérité. C'est un film coréen.
Lequel ?
Parasite. Qui a eu la Palme d'Or du Festival de Cannes. Il faut vraiment le regarder. C'est un truc, c'est un ovni. C'est super bien fait. Nous, on l'a vu en coréen, sous-titré. On parle pas coréen. ça a été un coup dans la figure, un truc absolument génial. Après, moi, j'ai mes marottes, hein. Moi, je suis aussi hispanophone, hispanophile, donc j'adore Almodovar. J'ai regardé le dernier film d'Almodovar que j'ai trouvé génial, mais je suis complètement biaisé. Moi, j'adore cet univers, j'adore cette culture, donc voilà. J'aime bien effectivement les vieux films aussi, mais aussi les nouveaux, hein. Mais il y a beaucoup de choses, mais il y a pas. C'est rare que, tu vois, je te dirais cette année, à part Parasite et le dernier d'Almodovar, le reste, j'ai vu plein de choses, mais je ne me rappelle pas.
Tu disais Netflix, Netflix, tu matais, mais pas tant que ça, c'est ça? Un peu, quand même,
quelques séries. J'ai horreur des séries.
Ah ouais?
Ouais, j'ai horreur de ça, parce que je trouve que c'est un format qui est finalement ultra commercial et pas du tout artistique. C'est-à-dire qu'on a inventé ce format pour créer de l'attention plus longue, mais pas il y a rien d'artistique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une démarche artistique. Oui. C'est-à-dire qu'on n'a pas créé ça pour faire de l'art, en fait. On a juste créé ça pour capter l'attention. Et moi, je suis très mauvais. J'arrive pas à me fidéliser à un truc. Enfin, par exemple, j'ai jamais regardé un truc de, j'ai jamais vu Game of Thrones. Je veux pas le voir. J'ai même pas vu Breaking Bad, tu vois, j'ai pas regardé, quoi, tu vois, c'est trop long.
T'as même pas regardé Silicon Valley?
Mais c'est sur HBO. C'est ça que j'ai regardé, j'ai tout regardé. Mais parce que, pour moi, c'est presque un documentaire satirique. Ouais, c'est très proche. C'est ça qui est Laurent.
Ah ouais.
C'est à la fois très proche et très éloigné, c'est très caricatural, mais c'est tellement, il y a des choses qui sont tellement vraies, quoi.
Ok. Eh ben, écoute, Carlos, ça a été méga complet. Plus d'une heure de Zod, là. De toute façon, je fais d'incroyables show notes. Donc, on va pouvoir retrouver tout ça en lecture de manière très claire. Merci infiniment.
Ben non, c'est moi qui te remercie vraiment... de m'avoir invité, de m'avoir. Fait confiance, en fait, et j'espère que ce qu'on se sera raconté, qui était vraiment une conversation, intéressera les gens, quoi. En fait.
Ouais, j'en suis sûr. Ouais. Moi, je vous dis à tous au prochain épisode de Stackcast. Si vous voulez le recevoir par email, allez sur stackcast.com, inscrivez-vous à la newsletter. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles.
Il faut absolument, ouais. Et c'est un conseil que je donne, ne mettez rien d'autre que 5 étoiles. Si vous voulez pas mettre 5 étoiles, mettez rien. Ne notez pas. Les podcasts, il faut 5 étoiles. Sinon, ne notez pas. Donc, mettez 5 étoiles à Stackcast ou alors à l'écouter.
Allez écouter Silicon Carnet.
Oui, voilà, par exemple.
Je tiens à en parler parce que c'est super cool. Donc, c'est ton podcast que tu fais avec ta team là-bas et puis c'est backé par French Web, c'est ça un peu?
Oui, c'est avec mon pote Richard Menveu de French Web qui m'a fait confiance et qui diffuse ça sur French Web. On a beaucoup d'audience, c'est super. Et c'est vraiment une conversation. On fait ça, c'est un podcast à quatre. Donc, moi, je suis un peu le.
Oh, c'est génial.
Voilà, on est quatre. En fait, j'ai plein de conversations dans la vallée avec des gens super géniaux et des Français qui parlent français. Et ces conversations, on les a sous forme de dîner ou de café. Et je me suis dit, pourquoi je les enregistre pas, quoi, tu vois. Donc, voilà.
C'est ça. Ça se ressent en plus. Ça se ressent dans les épisodes. Ok, écoute, encore merci et puis je vous dis à bientôt.
Bye bye. Salut. Ciao.